Clé en main en ce mois de mai. Alain Romestan, bonjour. Un passage récent à Royan, belle cité balnéaire, un libraire, un vrai libraire, comme notre ami Olivier Lostis de l'Esperluette, et dans un rayonnage, un livre de Patrick Glâtre, Jean Mancorgé Gabin, acteur de la libération de Royan, avec une préface de son fils Mathias Mancorgé et publié aux éditions Bonne Anse. Alors une idée pour cette émission clé en main, le soldat Jean Gabin, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que tant de comédiens, d'artistes vivaient leur vie dans les théâtres laissés ouverts par les nazis occupants. C'est parti. Salut, Jean Gabin, soldat.
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui à fardeux, qui tout le temps se font des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Comme vous le savez, Jean Gabin, icône cinématographique, fut aussi chanteur, et cette émission sera ponctuée de pauses musicales tirées du CD Jean Gabin, quand on se promène au bord de l'eau.
Jean Gabin, la Légion d'honneur, on sait ce que c'est une grande distinction honorifique que vous avez méritée par toute une vie au service de votre art. Ce que l'on sait moins, et ce dont je voudrais parler maintenant, c'est qui est Jean Gabin. Alors par conséquent, si vous le voulez bien, vos noms, prénoms, âge et qualité.
Eh bien, Jean Gabin Alexis Mancorgé.
Votre âge ?
55 ans passés, je vais sur ma 56e année, et qualité comédien.
Mais excellente.
Bon.
Jean Gabin, vous êtes marié ?
Je suis marié.
Père de famille ?
Père de famille, j'ai deux filles et un garçon.
Trois enfants.
Trois enfants.
30% de réduction famille nombreuse dans
exactement.
Les métros.
Exactement.
Et dans les trains.
Et dans le train, exactement.
Quand est-ce que vous avez débuté, Jean Gabin?
J'ai débuté en 1922, l'hiver 22-23, aux Folies Bergères. Hein. Car je viens du Music Hall, j'ai débuté au Music Hall, ensuite j'ai fait mon tour de chant, j'ai joué l'opérette, et jusqu'au jour où je suis entré au cinéma, c'est-à-dire en 30, il va y avoir 30 ans.
Quel a été votre premier film?
Mon premier film était une opérette, car comme j'étais un jeune premier d'opérette à l'époque, je chantais, je dansais, mon premier film était un film qui s'appelait Chacun sa chance. Chacun sa chance.
Chacun
sa chance, c'est dur à dire.
C'est alors que commence la série de vos succès, c'est-à-dire Maria Chapdelaine, La Bandera, Gueule d'amour, La Grande Illusion, entre autres, il faudrait les citer tous. Puis c'est la guerre que vous faites dans les forces navales françaises libres, le quartier maître Jean Moncorgé. Puis vous revenez en France. Que se passe-t-il alors?
J'ai eu une éclipse. J'ai eu une éclipse, je vais vous dire pourquoi. Je crois le savoir maintenant, parce que j'étais parti tout de même... En pleine forme, si j'ose dire. Je suis parti à la guerre, j'avais donc 35-36 ans.
Oui.
Et à ce moment-là, je jouais encore les jeunes premiers. Je suis revenu avec les cheveux blancs. Et ça m'a donné des complexes d'avoir les cheveux blancs.
Pourquoi?
Parce que je ne pouvais plus penser jouer les emplois que je jouais avant la guerre. Alors je me suis cherché un peu, j'ai fait quelques films qui n'ont pas été très heureux. Et puis vous savez, le public est parfois exigeant, il voulait probablement me retrouver comme il m'avait quitté, mais j'avais 10 ans de mieux. J'avais 10 ans de mieux et ces 10 ans, je les avais physiquement en plus et sur mon visage. Alors j'ai tourné, j'ai eu quelques films qui n'ont pas été très heureux et puis j'ai... tourné un film avec Clément qui s'appelait Au-delà des grilles, qui a été un succès. Et puis j'ai eu la grande chance, parce que vous savez, il y a une énorme part de chance qui trône dans ce métier, j'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pépé le Moko dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus. Le film a marché et c'est reparti. Mais je vous dis, là-dedans, il y a une grande partie de chance.
Oui, mais il y a aussi énormément de votre talent, Jean Gabin.
Bon.
Et je crois que s'il fallait...
Je vous pardonne de vous couper, Citroën.
Oui.
Mais un beau rôle, ça aide beaucoup un acteur. Beaucoup.
Quel est votre violon d'Ingres? On dit que vous aimez beaucoup la télévision.
C'est exact. Je vois tous les soirs la télévision quand je suis chez moi. Et j'ai une grande joie de mettre mes savates, mettre ma petite table avec ma femme, on regarde... On dîne en regardant la télévision. Je vous vois tous les soirs, d'ailleurs, mon cher.
Merci, vous êtes gentil. Je voudrais maintenant en venir à votre Légion d'honneur. Je voudrais la faire voir aux téléspectateurs. Voulez-vous me tenir mon micro, Jean Gabin, s'il vous plaît?
Merci.
Voici la croix de la Légion d'honneur de Jean Gabin.
Mais je ne la connaissais pas.
Vous ne la connaissiez pas?
Pas du tout.
Vous l'aviez jamais vue?
Pour moi, je veux dire, si, j'ai déjà vu une Légion d'honneur. Mais pour moi, non. Parce
qu'en
principe, je ne l'ai pas encore officiellement. J'ai pas reçu le diplôme, si j'ose dire.
Bien sûr. Qui est-ce qui va vous la remettre?
Je pense, monsieur le directeur de la cinématographie, monsieur Fouré-Cormeray.
Jean Gabin, la Légion d'honneur, c'est tout de même une étape dans la vie d'un homme. Cela prouve que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup réussi. Et en principe, elle marque aussi le début d'une nouvelle étape dans la vie d'un homme. Vous voudriez bien sûr essayer de faire mieux. On veut toujours faire mieux la prochaine fois.
Oui.
Mais je voudrais vous demander tout simplement de rester au cours des années qui vont venir à vous-même, de rester Jean Gabin, c'est-à-dire l'idole à juste titre du public français.
Je vous remercie.
C'est-à-dire l'homme que chacun va voir avec à l'avance le sentiment du plaisir qu'il va avoir en le regardant.
Merci.
Non, ce n'est pas à vous de dire merci, je crois, Jean Gabin, qu'après une telle carrière, c'est au public à vous remercier. Et je prends la liberté de le faire en son nom.
Eh bien, merci quand même, et merci pour le public.
Au revoir, Jean Gabin.
Merci. Thank you.
toujours la même cour au même étage. À 10 ans, on avait déjà les mêmes goûts en partage. À 15 ans, on rêvait d'amitié et même davantage. Aussi, c'est sûrement le même sentiment qui affecte tout naturellement. Quand au même printemps, on a eu 20 ans avec ma petite gueule. C'est le même baiser qui nous a grisé avec ma petite gueule. Et dans une même étreinte, nous marquant d'une même empreinte, on s'est pour toujours pris d'un même amour avec ma petite gueule. Et dès lors, sans dételer, nous armons d'un même courage. Afin de nous meubler, on s'est mis tous deux à l'ouvrage. Mais à peine installés, on s'est aperçu qu'à l'usage, il manquerait encore quelque chose dans le décor, aussi d'un commun accord. On s'est aussitôt remis au boulot avec ma petite gueule. Et 9 mois après, comme un fait exprès avec ma petite gueule, je devenais le repère d'un petit môme qui était de sa mère. Le vivant portrait, mais qui souriait avec ma petite gueule. Quand plus tard nous serons vieux, alors sans regret, sans tristesse, le soir au coin du feu, unis d'une même tendresse, nous revivrons tous deux nos beaux souvenirs de jeunesse. Et quand viendra le jour de faire à notre tour le grand voyage sans retour. De même qu'on est venu au monde inconnu avec ma petite gueule, c'est de la même façon que nous en repartirons avec ma petite gueule. Et pourvu qu'on nous enterre dans le même petit coin de terre, quelque part, n'importe où, bon, on sera bien partout avec ma petite gueule.
Jean Gabin reste encore en 2022 le comédien-acteur mondialement connu. La Bête humaine, Pépé le Moko, Quai des Brumes, La Grande Illusion, Un singe en hiver, Le chat, Le pacha, La traversée de Paris, Touché pour Grisby, Archimède le clochard, Le jour se lève, La belle équipe, La bandera, Les misérables, Le clan des Siciliens, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas sa carrière cinématographique qui nous intéresse aujourd'hui, mais son engagement en avril 1943, dans les forces françaises combattantes, marin, second maître, puis dans le régiment blindé de fusiliers marins. Il a rejoint la fameuse division Leclerc qu'il ne quittera pas de Royan à Berchtesgaden. Une exposition a été consacrée à Jean Gabin, dans la guerre, 39-45, réalisée par la Société des Amis du Musée Jean Gabin, avec objets personnels et militaires, photographies d'époque, exposition issue de l'ouvrage de Patrick Glâtre.
Remis au boulot avec ma petite gueule, et 9 mois après comme un fait exprès avec ma petite gueule, je devenais le repère d'un petit monde qui était sa mère.
Allez, pique-nique douille, c'est toi, l'andouille. Allez, Thomas, on va commencer par une
Est-ce que c'est Jean Gabin qui chantait là?
Je me demande.
Avec ma petite gueule.
J'ai avant ça.
Mais oui, il a commencé sa carrière très jeune avec la voix de l'époque.
Vous faites cette espèce de...
Jean Gabin, pourquoi Jean Gabin?
Pourquoi Jean Gabin? Tout simplement parce qu'il y a une exposition au musée de la Libération.
Au musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris, s'il vous plaît, monsieur.
Exactement, musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris, et qui s'intéresse à Jean Gabin pendant la guerre. Mais lorsque j'ai préparé ce reportage, figurez-vous que j'ai parlé à mes petits camarades de Jean Gabin. Et j'ai dû constater que Jean Gabin n'était pas aussi connu que ce que je pensais. Donc,
alors, il n'y avait pas que les gens de Télématin hein, non plus, auquel il a posé la question.
Non, tout le monde. Et donc, petite rétrospective, Jean Gabin, c'est un des acteurs principaux du XXe siècle. En France, je vais vous dire, il a fait 160 millions de spectateurs. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, évidemment, il a tourné avec les plus grands, Renoir. Alors, on a le Quai des Brumes en tête parce que tu as de beaux yeux.
Oui, mais ne m'embrassez pas.
Voilà. Et puis aussi, par la
suite... Une petite caresse sur le gros chat.
Vous vous rappelez la traversée de Paris quand il fait du marché noir et qui crie voilà, Janvier, tu fais du cochon. Donc, vous voyez, on a quand même quelques phrases qui reviennent autour de ces notes.
Remorque.
Exactement, remorque. Brume, le chat avec le Simone chat. Signoret.
Bon, on arrête.
On peut en citer des
voilà. Et donc, c'est assez étonnant de voir quand même qu'une génération ne me connaît déjà plus. C'est la même génération qui pense que Noah n'a jamais été tennisman.
Exactement. Non, mais c'est celle-là. Non, mais vous avez raison, qui se dit non pour nous. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'en fait, il y a eu un avant et un après la carrière militaire de Jean Gabin. C'est-à-dire qu'avant, c'était effectivement un acteur très populaire, mais qui faisait tous les types de rôles. Et après, une fois qu'il y a eu cette espèce de surcroît de virilité avec l'armée, il s'est mis à jouer énormément, pas que, mais des rôles de flic ou des rôles de truand. C'est-à-dire que celle-là,
avec
complètement...
Avec Ventura et autres, bien sûr.
Direction, donc, le reportage.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme.
On démarre cette exposition de Gabin pendant la guerre. Alors, avant la période militaire, eh bien, il y a sa carrière cinématographique. À Hollywood, et notamment un gros problème qui est résumé sur cette affiche, c'est comment est-ce qu'on va prononcer son nom outre-Atlantique ? Est-ce qu'on va dire Gabin ? Est-ce qu'on va dire Gaboon ? Est-ce qu'on va dire Gabin ? Et pour répondre à cette question, je trouve une petite astuce publicitaire. There will be Gabin about Gabin. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de commérages, beaucoup de bavardages à propos de Gabin. Et comme ça, au moins, il savait comment ça se prononçait.
I said I know. I know. I know. I know.
Bon, mais à un moment donné, il y a l'épreuve du feu. On est en 1944, il est à bord du pétrolier Leilorn et il se fait bombarder par la Loutre Va-Feu. Or, quelques temps auparavant, il a vu un film avec Humphrey Bogart qui subit exactement le même feu, sauf que c'est au cinéma. Il s'en tirait comme ça avec quelques petites égratignures. Et lui, il le vit en vrai et il râle. Il dit « J'avais le Kébourg qui gigotait tout seul sur ma tête tellement je clétais des dents. Quel con ce Bogart !» Bah oui. Et d'ailleurs, il aura cette phrase célèbre « La guerre, c'est pas du cinéma. »
Faut bien qu'on la finisse cette putain de guerre, non ? En espérant que c'est la dernière.
Attention, il redoute une chose, c'était de passer pour un planqué. Donc du coup, il s'est engagé à bord d'un char d'assaut qui s'appelle le Souffleur 2. Pourtant, il est complètement claustrophobe et puis c'est dangereux. Pourquoi le Souffleur 2 ? Parce que le 1 avait été incendié et les deux soldats brûlés vifs. Donc c'était vraiment dangereux. D'ailleurs, il avait tellement peur d'y passer qu'il avait légué l'intégralité de ses biens à Marlène Dietrich. Et attention, à bord, pas de Jean Gabin qui tienne. Ben non, pour ses camarades, c'est le second maître Montcorgé.
Avec ma petite gueule.
Bon, mais il y a des faits d'armes dans la carrière militaire de Jean Gabin ? Ah oui, oui, il a détruit une boulangerie. Une boulangerie allemande ? Non ! Une boulangerie française. En fait, nous sommes le 12 avril 45. Il est en train de rallier Saint-Jean-d'Angély. C'est la bataille de la poche de Royan. Et puis là, au détour de la bataille, il voit une boulangerie. Donc il se dit, tiens, c'est allumé. Il va pour chercher le pain. Et là, le boulanger et sa femme très autoritaire le virent manu militari. Puis donc, il repart dans son tank. Il recule avec son char d'assaut. Et là, il dit, fausse malheur ! Et un pan entier du mur de la boulangerie qui s'effondre. Alors c'est comme ça, il faut pas chercher Montcorgé.
Ce sont des choses qui ne se font pas dans la bonne société, dans la bonne vie.
Et pour terminer, cette image de Jean Gabin avec un béret, vous ne la verrez pas nulle part parce qu'il est là, mais pas beaucoup. Parce qu'il détestait ça, il disait, attendez, j'ai 40 piges, j'ai des cheveux gris, je vais pas me trimballer avec un béret de matelot, une petite marinière. Non, donc, il est passé très très vite second maître. Et oui, pourquoi second maître ? Pas pour le grade, mais non, parce que le second maître, il a la casquette. Il a la casquette, bah tout de suite, c'est la classe.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Bon, il n'y a pas que le soldat Montcorgé et Gavin qui ne sont pas très connus, il y a aussi le musée, il faut bien le reconnaître.
Alors
c'est peut-être l'occasion,
Tout à fait, parce que vous avez une expo temporaire sur Jean Gabin pendant la guerre, mais vous pouvez profiter de cette exposition pour découvrir donc, le musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris. C'est du côté du quartier de Montparnasse, à Paris, si vous passez par là. Et vraiment, là, pour le coup, ça vaut le détour.
Merci, Tom.
Je veux faire un pas quand je sors de chez moi. On ne suit pas à pas, je ne sais pas pourquoi. À mon oreille, j'entends des pas profonds, galants. Les hommes me disent bonjour et partent à vous. Je suis une blondinette, une vraie coquette et dans tout Paris. On me dit, vos petites faussettes, vous êtes en trompette sous plein gentil. Mais oui, on me dit, quelle jolie silhouette, vraiment ta toilette du dernier cri. Paris, mais avec mon petit chien, je continue mon chemin. On me suit et je fais des pégas.
disons, ne sont pas très sérieux. Mais les plus cochons, ah vraiment c'est les vieux. Ils veulent doucement trottir, c'est parce qu'ils peuvent courir. Moi ça me fait rigoler, je les ai soufflés. Je suis une blondinette très coquette et dans tout Paris.
On dit, jolie, petite blondinette, voici en trompette comme il est gentil.
Mais oui, hé hey. Monsieur Tergeonville, regardez la fille de ses imbéciles. On dit, ils promettent des châteaux, des perles et des autos. Et puis, ils vous donnent la peau.
Mademoiselle, je cherche partout, puis chez Noyer-Vous, je suis heureux comme tout. C'est vous.
Vraiment? Il est merveilleux, ils ont les mêmes yeux, même pour les mêmes yeux. C'est sûr, avec votre chienne, je veux bien.
Ma chienne, mais c'est un chien.
Alors, il y aura pas moyen.
Très bien.
Jean Gabin disait lui-même que la guerre, c'est pas du cinéma, et le comédien, ayant interrompu sa carrière, a fait montre d'un engagement courageux que les Français d'époque auraient aimé voir proliférer. En juillet 1939, en effet, c'est la guerre, et l'acteur interrompt le tournage de Rosmorque, beau film reconnu, quand il sortira après plusieurs interruptions dues à la guerre. Il se réfugie dans la zone libre, au sud de la France. Le pouvoir nazi aimerait bien qu'il continue sa carrière et incarne à l'écran la collaboration qui se met en place entre le régime du maréchal Pétain et l'occupant. Comme le raconte Simone Signoret, avant la guerre, il était le héros du Front populaire et quand les nazis sont arrivés, ils ont fait des ponts d'or à Gabin car ça aurait été merveilleux pour eux d'avoir l'ouvrier du jour se lève, le conducteur de locomotive, comme héros de la collaboration du retour à la Terre. Tous les poncifs que Vichy et eux ont voulu imposer au cinéma. Il n'a pas voulu et il est parti, refusant de rester le plus grand acteur de l'époque. Il était très touché que j'ai la mémoire de tout ça. Jean Gabin donc s'exile aux États-Unis où il s'inscrit dans l'effort de guerre avec une autre exilée allemande, cette fois-ci, et comédienne star, anti-nazie Marlène Dietrich. Le général de Gaulle lui fait demander de s'inscrire dans l'action de communication de propagande, comme on disait, de la France libre et résistante, ce qu'il accepte. Mais cela ne suffit pas à Gabin de jouer les fictions. Il décide de s'engager directement.
Nous avons la barbe rousse, le teint hâlé, les yeux clairs. Nous, les matelots d'eau douce, nous, les marins sans la mer. Votre mornin y est tralalaire, Far away et tralala. Les marins ont le beau rôle, mais ne soyons pas amers. Notre vie est bien plus drôle, ah, s'ils n'avaient pas la mer. Bonne morning et tralalair, farewell et tralala. Pour nous c'est toujours Marseille, encore Marseille et Bordeaux. Mais leur route est bien pareille, c'est toujours Valparaiso. Bonne morning et tralalair, farewell et tralala. Comme c'est beau la rivière, eux n'ont rien à l'horizon. Ils regrettent leur chaumière, nos bateaux sont nos maisons. Bonne morning et tralalair, farewell et tralala. Zons d'épée, roquet pour voile, nous n'en avons pas besoin. Nous avons les mêmes étoiles, mais les nôtres sont moins loin. Bonne morning et tralala, farewell et tralala. Nous avons femmes et filles que nous ne quitterons plus. Mais sans aller aux Antilles, non, somme pas moins cocu. Bonne morning et tralala, farewell et tralala. Morning et tralala, farewell et tralala.
Première bataille au large de l'Afrique du Nord, puis il devient instructeur conducteur de chars dans une division blindée. On notera pour mémoire que les soldats et Gabin termineront leur action au Nid d'Aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Engagement de Gabin entièrement patriotique et d'une discrétion totale, de la belle étoffe, comme le dit la journaliste Marie-Noël Tranchant, en 2017. 27 mois passés sous l'uniforme, après il ne jouera jamais le rôle de militaire à l'écran, et son ami Michel Audiard aura du mal à lui faire mettre une vieille casquette de fusilier marin pour un rôle de loup de mer dans le film « Le drapeau noir flotte sur la marmite ». Bertrand Tavernier, en faisant référence à la discrétion de Gabin, est le seul à mettre l'accent sur cette réplique de Gabin, dans le film « Sous le signe du taureau », un profiteur du temps de l'occupation lance à Gabin, qui joue le rôle d'ingénieur, « Et toi, qu'est-ce que tu faisais à la Libération ?» Et Gabin de répondre « Oh, moi, j'étais sur des plages. » Discrétion est pour cet immense acteur banalité de son rôle de soldat. Il avait fait son service militaire dans la marine, mobilisé comme tous les Français en 1939, et démobilisé comme tous les Français en 1940. Rappelons une fois de plus que les Allemands, par contre, essaient de l'enrôler et la firme cinématographique nazie continentale lui propose des sommes faramineuses pour qu'il continue sa grande carrière avec eux. Refus dans la plus complète discrétion encore. Et c'est la Century Fox aux États-Unis, en février 41, qui lui signe un contrat pour plusieurs films. En attendant, car Gabin espère le plus rapidement possible revenir dans son pays, français parmi les Français. Mille fibres le rattachent à la France, où sont ses racines, il s'exprime d'ailleurs là-dessus. Des gars se faisaient tuer pour nos pommes, et on était plutôt peinards. Je ne supportais plus tout ça. D'où son engagement.
Nature m'a doté d'un tas de capacités, de qualités notoires. Je suis intelligent, sérieux et diligent, j'ai beaucoup de mémoire. J'entends bien, j'y vois clair, je suis fin, j'ai du flair, je suis très méthodique. J'ai de la décision, j'ai de la précision et je suis énergique. Eh bien, malgré tous ces talents, on me relègue au dernier plan. Quand on a tout ce que j'ai là, quand on sent qu'on a tout cela, c'est affligeant, décourageant, de voir négligé par les gens toutes ces qualités. Et parce que quand on a tout ce que j'ai là, quand on sent qu'on a tout cela, c'est embêtant de jouer tout le temps le rôle d'un con. Je pourrais sans effort ouvrir un coffre-fort, sans casser la serrure. Je pourrais, j'en suis sûr, pratiquer dans un mur un trou à ma mesure. Je m'y connais en tableau, en bijoux, en bibelot, en meuble, en tenture. Je lis parole d'honneur, je pourrais être un voleur d'une grande envergure. Et ça m'attriste quand je vois que l'on n'a pas confiance en moi. Quand on a tout ce que j'ai là, quand on sent on a tout cela, c'est affligeant, décourageant, devoir négligé par les gens toutes ces qualités. Et parce que quand on a tout ce que j'ai là, quand on sent qu'on a tout cela, c'est embêtant de jouer tout le temps le rôle d'un comparse.
En avril 1944, un régiment blindé de fusiliers marins est créé et intégré à la 2e DB de Leclerc. Gabin, en tant que chef de char, participe à la liquidation de la poche de Royan, à la campagne de Moselle également. Toujours dans la discrétion, au milieu des autres, avec la peur, pas star du tout, mais soldat, loyal, amical, anonyme. Laissons maintenant la parole à Patrick Glâtre dans son livre « Jean Moncorgé, Gabin ». Pendant que Jean Gabin attend son affectation, il suit de près l'actualité des combats. Le 18 septembre 1944, il écoute à la radio le discours du général de Gaulle qui, en visite à Saintes, annonce son souhait de réduire les poches de l'Ouest par la force, en commençant par Royan, pour que les combats de la côte atlantique finissent par une victoire française. Depuis le 12 septembre, la ville de Royan s'est fermée sur elle-même, personne ne passe, il n'y a plus de courrier, plus de journaux ni d'électricité. Lanterès, le maire de Royan, lance un appel à la population. Royan est en état de siège, la situation alimentaire risque d'empirer dans de brefs délais. J'invite instamment toutes les personnes dont la présence n'est pas indispensable à quitter la ville immédiatement. J'espère que les intéressés comprendront l'importance de cet appel lancé aussi bien dans leur intérêt personnel que dans celui de leurs compatriotes qui ne doivent ou ne peuvent pas évacuer. Alors que Bordeaux a été libéré fin août, Royan est encore une zone interdite. Plus moyen d'en sortir, plus moyen d'y entrer, sauf à l'occasion de trêve. Les Allemands acceptent de laisser passer les personnes âgées, les blessés, les grands malades. Un accord est signé le 8 octobre entre les Français et les Allemands afin d'évacuer les 8000 civils qui restent dans la poche, dont 4000 à Royan et 4000 dans la presqu'île d'Arvers. Des évacuations ont lieu environ toutes les 3 semaines ou tous les mois, selon la volonté des Allemands. On transporte les réfugiés en camion jusqu'à Midi et en train jusqu'à Saujon et Sainte avant de les disperser vers les communes d'accueil de la Charente-Maritime, libérées ou même parfois beaucoup plus loin. Pourtant, beaucoup de Royanais, souvent des personnes âgées, ne veulent pas partir par peur de l'inconnu, par attachement à leur ville, par crainte du vol. Les maisons inoccupées sont vite pillées, un trafic s'est mis en place avec l'Espagne des pêcheurs, remontent des cargaisons de vivres et les échangent contre des meubles volés, des œuvres d'art. À vouloir rester chez eux, les habitants passent pour des collabos aux yeux des résistants. Royan est devenu, par sa situation géographique, depuis septembre 1944 et pour des raisons stratégiques évidentes, un réduit allemand, tandis que les communes voisines de Saintes ou d'Angoulême sont libres. L'état-major se satisfait de l'encerclement de la ville par les FFI. Le discours de De Gaulle marque sa volonté d'asseoir son autorité auprès des Américains et des Anglais qui souhaitent administrer la France après la libération totale du pays. Mais il cache aussi le désintérêt des alliés pour les villes de l'Atlantique, encore allemandes, afin de porter leurs efforts sur le front de l'Est prioritaire. En effet, l'opération Indépendance, qui doit libérer la poche de Royan, prévue pour le 10 décembre, retardée au 25 décembre, puis au 10 janvier 1945, a été finalement annulée suite à la contre-offensive allemande des Ardennes du 16 décembre. À Noël, l'officier Pierre Bottamy écrit « Hier, coup de théâtre, nous avons appris que nous allions repartir vers l'Est, abandonnant Royan à son triste sort. » C'est la conséquence de l'offensive allemande du maréchal von Rundstedt dans les Ardennes et qui a produit une véritable débâcle des troupes américaines. Et pourtant, à la veille de cette nouvelle retraversée de la France, j'ai en poche une permission de 4 jours que je me décide de prendre malgré quelques hésitations. Demain, 26 décembre, départ avec le convoi auto jusqu'à Angoulême. De là, le train sur Nantes où, en tirant un peu sur la ficelle, j'arriverai bien à passer le réveillon du 1er de l'an. En espérant qu'il sera plus gai que le précédent. De mi-septembre à mi-octobre, les maquisards ont bien tenté de prendre la poche, mais les FFI, mal entraînés et surtout pauvrement armés, se heurtent aux puissantes défenses allemandes. Le colonel Henri Hedlin, qui commande l'ensemble des maquis, renonce au combat et décide de ne pas dépasser la Seudre. Après plusieurs jours au bataillon de renfort de Maison Lafitte, puis une permission à Paris, où il a passé une nuit alcoolisée mémorable avec le lieutenant-colonel Massu, de la 2e DB lui aussi, le second maître Montcorgé, Jean Gabin, rejoint un détachement du RBFM à Hottwiller, en Moselle, en soutien de divisions américaines. Pendant un mois, le régiment investit la région et loge chez l'habitant. Le maître de maison, une véritable armoire qui tient une place honorable à table, servie par une gentille petite bonne, les invite constamment à partager ses repas pantagruéliques. Un jour, la bonne va confectionner une immense tarte qui couvrait une grande partie de la table. Elle fera longtemps partie des souvenirs de l'équipage. Il faut reconnaître que Montcorgé, Jean Gabin, aime bien les plaisirs de la table à condition que cela se fasse en bonne compagnie et dans une bonne ambiance. Le temps se partageait entre les combats, les patrouilles, l'entretien du tank et la bonne bouffe. C'est pendant cette campagne de Moselle que l'équipage du char, le souffleur, subit une lourde attaque, un épisode dont Jean Montcorgé Gabin se souviendra lorsqu'il deviendra chef du souffleur 2. Il fait très froid, moins 20 degrés, le 29 janvier 1945, au carrefour 177 à Grüssenheim. Le char souffleur est pris pour cible par un Jagd Panther qu'il avait tenté en vain de détruire juste avant. Sentant sans doute le coup venir, le chef de char, Le Goff, s'est plaint que sa position ne lui plaisait pas. Touché par deux projectiles ennemis, le char prend feu, Le Goff est blessé à la jambe, ainsi que Bénédic. Le Mercier et Price sont malheureusement tués. Reste Godinec, le tireur, qui s'en sort miraculeusement indemne. C'est la fin du souffleur et de l'équipage d'origine. Quelques jours plus tard, cette perte n'empêche pas le RBFM de gagner la bataille. Les Allemands évacuent définitivement l'Est. La fameuse poche de Colmar est liquidée. L'armée française borde le Rhin de Mulhouse à Strasbourg.
Entraîné par la passion et curieux de sensation, j'ai fait un mariage d'inclination avec une femme ultra chic. Et quand nous sommes en public, sans me vanter, sa beauté flatte ma vanité. De l'étoile à l'opéra, fièrement je lui donne le bras et je me dis, c'est moi le mari. Avenue du Bois, le matin, je l'accompagne, le vif et le teint épanoui, c'est moi le mari. Rue de la Paix, chez le bijoutier, quand elle choisit un collier, j'en sais le prix, c'est moi le mari. Rue Pigalle, quand tout un soir, elle danse avec son danseur noir, je reste assis, c'est moi le mari. Quand vient la saison d'été, elle aime qu'on aille habiter les palaces les plus réputés. Il faut voir ses additions, mais j'ai des satisfactions. Ma chérie fait, en effet, j'ai mon petit succès. Quand elle s'exhibe en maillot, devant une bande de ballons, je me dis, c'est moi le mari. Quand elle se rend au dancing, impeccable dans mon smoking, je la suis, c'est moi le mari. Quand au cours d'un black bottom, elle flirte avec tous les hommes, je souris, c'est moi le mari. Cependant qu'au baccarat, je gagne, ça ne rate pas, 500 louis, c'est moi le mari. Ma femme vient d'être maman et m'a donné récemment un garçon qui est mon portrait vivant. Comme elle le néglige un peu, je la remplace comme je peux. Matin et soir, faut me voir accomplir mes devoirs. Quand sa mère est aux galeries, je pousse la voiture du petit aux Tuileries. C'est moi le mari. Je cours
cause avec les nounous. Je fais de temps en temps boudou, boudou, l'enfant rit. C'est moi le mari. Je le berce tendrement, je lui fais un assortiment d'aillasserie. C'est moi le mari. Je suis copieusement inondé chaque fois qu'il lui prend l'idée de faire pipi. C'est moi le mari.
Le général de Gaulle fait son entrée à Colmar et à Strasbourg comme il l'a fait à Paris. Jean Gabin a appris le drame survenu à l'équipage du Souffleur et sait que celui-ci doit être remplacé. Il rejoint, à sa demande, la division au château de Bouges, dans l'Indre, et intègre le 2e peloton, 2e escadron, sous les ordres de l'enseigne de vaisseau, Dan Gélinet. Le Goff, blessé, est hors course pour plusieurs semaines et Jean devient dès lors le chef de char du Souffleur 2 avec Godidec, tireur et seul rescapé de l'équipage du premier Souffleur. Raymond Thiébault et Roger Legendre en conducteur et Jacques Chevalier chargeur complètent le groupe. Superstitieux, Jean pense que ce qui est arrivé au Souffleur ne peut que se reproduire sur le Souffleur 2. Surmontant sa claustrophobie et conscient des dangers d'un tel environnement, il dissimule sa peur et assume ses fonctions avec toujours la même détermination. Il craint aussi le feu et sait que le risque principal à bord d'un char est de brûler vif sans avoir le temps de sortir. C'est ce qui est arrivé au camarade Le Mercier qui a péri dans les flammes, bloqué dans la tourelle du Souffleur. Les traits durcis par la guerre, le chef de char du RBFM est apprécié et respecté de tous. La solidarité se crée rapidement. Dans un événement comme cela, l'individu ne compte pas, n'existe pas, explique Raymond Thiébault. Tout le monde est dans le même sac et chacun doit veiller sur l'autre. On connaissait tous Jean Gabin, Pépé le Moco, Gueule d'Amour ou Quai des Brumes. Mais nous avions en face de nous Jean Moncorgé, un camarade, et nous étions un peu impressionnés que cet homme, dont on savait qu'il avait des biens et une situation, comme on dit, nous accompagne comme ça en prenant de tels risques. S'il l'avait voulu, il aurait pu rester à l'arrière, surtout à ce moment-là, dans Paris libéré. Eh bien non, il était là comme nous, dans les mêmes conditions, engagé à fond pour aller jusqu'au bout du devoir citoyen, ce qui n'était pas rien. À Bouges, sa division fait le point, compte les manquants, les remplace, instruit les nouveaux. On se recueille aussi, on pense à ceux qui ne sont plus là. L'escadron occupe les communs d'un château du XVIIIe siècle, entouré d'un beau parc, et se complaît au milieu de la basse-cour, de l'élevage, des travaux de culture. Jean sympathise avec le marin Guillon, qui comme lui prétend avoir une âme d'agriculteur et avoir raté sa vocation. Il rencontre aussi Dan Gélinet, qui deviendra plus tard l'un de ses meilleurs amis. Étendu dans l'herbe, ce dernier rêve d'embarquer tous ses hommes sur un même bateau quand la guerre sera terminée, afin de conserver l'esprit de cette équipe. Mais le régiment s'est formé dans l'épreuve et la guerre l'a maintenu dans cet état. Impossible d'obtenir en temps de paix ce même renoncement. Quelques journalistes de la presse écrite s'invitent dans la division et tentent d'interviewer Gabin. L'un des journaux titre le lendemain « Jean Moncorgé, dit Jean Gabin, n'a qu'un rôle de second maître dans le film de la guerre ». Et il écrit « Quand on cherche Jean Gabin parmi les chars de la division Leclerc, on ne trouve que le second maître Jean Moncorgé. Il est chef de char. Ce Moncorgé n'a rien du Gabin calamistré de l'imagerie américaine. Il n'a plus rien d'une vedette de cinéma, c'est un soldat. On veut le photographier, il demande la permission à son capitaine. » L'opéra donne une fête au général Leclerc, la division est invitée, lui, il reste attelé à son char. « Les moteurs ne sont pas synchro, dit-il, je n'ai pas envie d'aller au baroud avec un engin qui risque de tomber en panne. » À l'heure du courrier, tous les hommes s'approchent du vague-mestre. Jean, celui qui recevait le plus de lettres avant-guerre, est le seul à ne pas en avoir. Peu de personnes savent qu'il est là. La guerre ne lui a rien laissé, il avait une maison près de Dreux, un bombardement l'a rasé. Il est sans domicile fixe, il n'a conservé que son accent de Paname et son besoin impérieux de propreté. Il fait un jour 100 km pour découvrir un établissement de bain. À Bouges, il a improvisé un tub dans les communs du château où il cantonne. Quelques admiratrices du cru tentent quand même d'obtenir un autographe. Pendant sa campagne militaire, tous ses camarades soulignent le succès qu'il obtient auprès des femmes sans jamais en profiter. Il ne faut pas croire, c'était dangereux, et chacun d'entre nous, Gabin compris, aurait pu y laisser sa peau, racontait encore Raymond Thiébault. D'ailleurs, nous avons perdu beaucoup de camarades et nous nous souvenons d'eux encore aujourd'hui. Gabin était simple avec nous, on savait que ce n'était pas le même monde avec le cinéma, mais lui, avec nous, c'était le contraire de ses films. Nous cavalions un peu les filles, mais pas gamin. D'abord, nous étions plus jeunes et lui était plutôt timide et réservé. Lui, comme nous, n'avions pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, lorsque l'on me parle de cet épisode de la deuxième DB, des combats, des risques, je ne pense pas comme cela. Nous ne pensions pas à cela. Comment aurions-nous pu ? On ne se sentait pas des héros, c'était le destin. Et pour finir, revenons au cinéma, au grand Jean Gabin, à propos de Archimède le clochard, le film célèbre. Il est, Jean Gabin, interviewé par François.
Donc, ce qu'il y a, je vais vous dire, effectivement, j'observe beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis dans ce métier de pouvoir jouer un mécanicien de locomotive, des voyous, maintenant des financiers, enfin, parce que j'observe beaucoup, je fais très attention aux gens.
Ça, des voyous, il y en a un peu partout, mais des mécaniciens de locomotive, c'est déjà plus difficile. Quant au milieu de la bourse que vous avez évoqué dans les grandes familles, c'est également très spécial. Et le personnage que vous incarnez maintenant est également très différent. Il n'y en a pas tellement. Vous croyez vraiment qu'il y en a plus qu'on ne pense ?
Oh, beaucoup plus.
Oui ?
Oh, beaucoup plus.
Ce ne sont pas des personnages dangereux ?
Non, pas du tout. Ce sont des gars qui vivent à leur manière, qui aiment vivre comme ça, qui n'aiment dépendre de personne, qui sont comme ils sont. Quoi.
Mais comment faites-vous pour trouver justement toutes les pièces de ce vêtement ? C'est en vous rappelant plusieurs personnages où on a l'impression que vous avez noué votre cravate, votre écharpe d'une certaine manière, si c'était noué dans l'autre sens, ce serait un autre personnage.
Bon, écoutez, ça n'a pas été long, vous savez, pour m'habiller. Je vais vous dire franchement, François, ça m'a pris 2 heures. On a été avec l'assistant de Grangier, avec Jacques Doré, on est allé chez Tranouez, on est allé chez un fripier. Bon, là, j'ai trouvé le foulard, le gilet. D'ailleurs, chez le fripier, j'ai trouvé le par-dessus, le chapeau. Puis voilà, ça a pris 2 heures.
Cher,
vous savez, faut pas tellement chercher à se casser la tête avec, sur ça. C'est...
Voyez-vous, Jean Gabin, je vous rencontre de temps en temps, et si votre attitude envers nous est toujours la même, fort courtoise, vous êtes cependant chaque fois différent. Pas seulement à cause du vêtement que vous portez, mais on a l'impression que le personnage que vous interprétez vous a influencé. Le Jean Gabin des grandes familles ne parlait pas de la même manière que ne parle aujourd'hui le Jean Gabin d'Archimède. si vous voulez, j'ai même un peu l'impression que le film, quand vous ne tournez pas, quand vous rentrez chez vous pendant toute la durée du film, vous n'êtes plus exactement le même. Est-ce que j'ai raison ou bien au contraire, est-ce que je me trompe?
Je ne voudrais pas employer de grands mots en disant que je rentre dans un personnage. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais enfin, je crois que d'après les vêtements qu'on porte, on rentre beaucoup plus facilement dans le personnage qu'on interprète, de par les vêtements.
Vous ne marchez pas de la même manière.
Ah ben, ça vient aussi de chaussures qui sont beaucoup trop grandes pour moi et avec des semelles beaucoup trop épaisses.
Vous détruisez toute la poésie, là.
Non, je ne détruis pas la poésie. Seulement, vraisemblablement, ce type est la même chose. Ce personnage doit avoir des chaussures beaucoup trop grandes pour lui. Et je parle dans l'idée. Et il doit la même marcher comme moi, vraisemblablement.
D'ailleurs, vous ne tournez pas ce film la même manière, la façon dont vous êtes tourné d'habitude. Cette fois, vous n'êtes pas maquillé.
Non, je ne me suis pas maquillé. Je joue comme ça. Bon, parce que c'était inutile de me maquiller. Des fois, vous savez, on se maquille parce qu'on a des femmes à côté de soi. Alors, on est obligé tout de même, par rapport d'ailleurs à la femme qui se maquille, on est obligé de se maquiller. Mais enfin, si je peux d'ailleurs maintenant, jusque plus loin, dans d'autres rôles, dans d'autres personnages, ne pas me maquiller, je le ferai parce que c'est.
Et la barbe que vous avez, c'est la vôtre.
Oui, c'est la mienne. D'ailleurs,
vous l'avez conservée pendant tout le film.
Oui, et elle m'a empoisonné pendant 15 jours. Elle me grattait terriblement. Je me réveillais la nuit en me grattant la barbe.
En somme, vous coupez la barbe exactement pour avoir l'air pas rasé.
Oui,
ça vous oblige quand même.
On la coupe au ciseau. La coupe au ciseau pendant tous les deux jours, tous les trois jours. Quoi. D'ailleurs, dans le film, à un moment, on me voit me la couper au ciseau.
Moi, je me suis demandé si vous ne tourniez pas un personnage de ce genre, justement pour réagir un peu contre l'emprise d'autres personnages que vous avez pu tourner avant. Et il y a toujours un moment, vous savez, où par exemple les grandes chanteuses de musical qui sont couvertes de visons ont envie de chanter qu'on est bien dans une petite chambre pourvu qu'on ait l'amour avec un verre d'eau et du pain. Et je me suis dit peut-être que l'excès de Schuldler a fait qu'il a voulu se désintoxiquer. Est-ce que vous désintoxiquez quand vous changez de personnage?
Non, je ne l'ai pas fait pour ça, mais enfin, je crois que le propre, je crois que le propre tout de même du comédien, quoi, c'est d'essayer tout de même de se renouveler. On ne peut pas toujours aller voir le même personnage. Ceci dit, c'est très difficile de se renouveler parce qu'il faut trouver des sujets, il faut trouver des personnages. Ça, c'est ce qui devient de plus en plus difficile, d'ailleurs, pour moi. Enfin, j'essaye toujours de jouer de nouveaux personnages.
C'est également très difficile de ne pas être catalogué une fois pour toutes, et vous avez réussi à traverser ce péril, car il y a des gens qui seront toujours un certain type d'acteurs qui n'en changeront jamais. Vous voyez, ils mettront un faux nez, mais ils sont toujours le même quand même.
Oui, mais je crois que j'ai beaucoup été aidé. Vous vous rappelez, une fois, je vous ai dit que j'avais eu de la chance, oui. Et je continue avec cette chance. J'ai beaucoup été aidé de par mon physique. Mon physique a changé, mon physique a évolué, ce qui me permet de jouer d'autres personnages, alors qu'il y a d'autres dont les physiques n'évoluent pas, ils peuvent pas. Ils continuent à jouer les vieux jeunes premiers. Enfin, si
c'est peut-être parce qu'ils ont essayé de conserver leur physique de jeunes premiers. Que c'est un truc qui ne marche pas.
Ça, je ne sais pas.
Pour revenir à Archimède, Archimède est un personnage, dans le fond, qui n'a pas envie de s'intégrer à un groupe qui ne lui plaît pas. Mm-hmm. C'est ça.
Oui.
Il le fait bien ou il le fait mal.
C'est ça.
Il le fait d'ailleurs par petites étapes. Ce n'est pas un film très spécialement cohérent.
Grangier appelle ça un libertinage.
Et je pense que cette attitude de votre personnage, d'Archimède, est un peu, toute proportion gardée la vôtre. Je ne voudrais pas tirer des conclusions trop hâtives. Mais je crois que lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, ce n'est pas la peine que sa personne en question essaye d'insister.
Oui, j'ai cette réputation, je sais. Oui.
En revanche, il faut que ça se sache.
C'est exact.
Et en revanche, quand vous aimez bien les gens, vous leur demeurez extrêmement fidèle.
Oui.
C'est de propos délibéré.
Oui.
C'est presque de l'égoïsme. Dans le fond, ils vont encore mieux être fidèles.
Non, mais je vais vous dire, François, vous savez, quand on arrive à un certain âge, et surtout dans cette profession, je trouve que quand on fait le papier, si j'ose dire, quand on se dit, bon, ben, y a plus tant d'années à travailler ou même à vivre, c'est un métier déjà terriblement fatigant de lui-même, où on est déprimé très souvent. Si encore il faut par-dessus le marché travailler avec des gens qui ne vous plaisent pas, alors là, vraiment, c'est, je dirais, la fin des haricots.
Ma chérie,
mon chéri, vis-y dans ce bon palais complet de vie.
Dans ce logis somptueux,
merveilleux, silencieux.
Et sans nulle présence importune,
nous y trouverons le bonheur.
En écoutant parler nos cœurs,
pour être encore plus heureux, tout est aussi plus beau. La 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 la, allons au bout du chemin.
La nuit nous entoure.
Remerciements encore une fois à Patrick Glâtre, mais aussi à Lina et à France Télévisions, Télématin. Clé en main sur Radio Grand Ciel, Jean Gabin soldat, clap de fin. À bientôt.
Couldn't stop her if I tried.